Merci Laurent, merci à l'équipe de louanges qui était certes réduite mais combien précieuse à nos yeux et qui nous a conduit près du Seigneur, n'est-ce pas? Alors bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'était super cette petite pluie ce matin, n'est-ce pas? Nous revenons de Bretagne avec Chantal et puis je bénissais de... Tout le monde est en Bretagne, hein, les chrétiens du sud. Et je bénissais personnellement le Seigneur pour la pluie, tout le temps. Nous avons eu un seul jour de soleil pendant les 10 jours que nous avons passé là-bas. Et le choc thermique était là au retour. Pascal, lui, est en vacances maintenant durant ce mois d'août. Et il est aussi en Bretagne. Et il vous passe le bonjour. Alors cette semaine, je me suis interrogé sur ma foi. Je me suis posé la question, au fond, en quoi est-ce que je crois? Alors c'est un exercice intéressant et important, et je vous encourage à le faire. Fouiller dans les valeurs qui sont les fondements de sa vie, pour en tester la solidité, pour en vérifier la cohérence. Je me suis d'abord demandé ce qu'était la foi. Et la foi biblique a deux composantes qu'il faut distinguer sans séparer. Merci Alexis de m'envoyer, c'est super. Il y a la foi à laquelle je crois, c'est-à-dire un contenu, un enseignement, une doctrine, et il y a la foi par laquelle je crois, c'est-à-dire la foi expérience, la foi synonyme de confiance, la foi, je dirais, qui me fait vivre, la foi existentielle, la foi qui se voit, la foi relationnelle avec le Seigneur, et la foi qui est aussi en même temps éprouvée de temps à autre. Et les deux composantes de la foi sont nécessaires dans la vie du chrétien, comme les deux faces d'une même pièce de monnaie. D'une part, il faut croire, certes, mais il faut bien croire. Il ne faut pas croire n'importe quoi. Être croyant, cela ne veut pas dire être crédule. La foi que nous sommes appelés à croire, le contenu, l'enseignement nous vient de Jésus-Christ et de ses apôtres et des prophètes. L'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes, dit l'apôtre Paul, et Jésus-Christ en est la pierre angulaire. C'est cette foi transmise une fois pour toutes. Nous n'avons pas à rajouter des enseignements de notre propre fond, de notre propre invention. C'est donc le premier aspect de la foi comme un contenu, la foi comme un fondement, la foi comme un enseignement. C'est la foi que nous sommes appelés à transmettre en tant qu'Église. C'est la foi que nous disons à nos enfants, à nos écolettes. Ah, ça ne s'appelle plus les écolettes, pardon si Hélène était là. Ça s'appelle les ateliers du maître. C'est la foi que l'Église est appelée à enseigner et à transmettre. C'est une foi intelligente, raisonnable, comme il a été dit ce matin, qui est dite et confessée en des termes que tout le monde peut comprendre, en termes intelligibles, puisque Dieu s'est abaissé et qu'il a parlé nos propres mots, ça a été rappelé ce matin. Et voici quelques versets qui nous parlent de cette foi contenue, de cette foi enseignement. Par exemple, dans 1 Timothée 2, verset 7, l'apôtre Paul dit qu'il a été prédicateur et apôtre. Il dit la vérité, il ne ment pas, et il a été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens dans la foi et dans la vérité. Ou encore 1 Timothée 4, verset 6, lorsque l'apôtre Paul exhorte à Timothée à être un bon enseignant, il dit « Tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. » Nourri des paroles de l'enseignement, nourri des paroles de la doctrine, nourri des paroles de ce que je t'ai enseigné. Et dans l'épître à Jude, encore un dernier verset, pour, simplement pour que vous puissiez saisir que ce que je dis, ce n'est pas simplement de mon propre fond, de ma propre invention. C'est l'épître à Jude au chapitre 1, verset 3. Il est dit « Bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de te faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. » Exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Une foi que l'on n'invente pas, que l'on reçoit, que l'on retransmet. Un enseignement que l'on reçoit, que l'on retransmet. En même temps, si la foi contenue, si la foi enseignement n'aboutit pas aux fruits visibles, pratiques, au changement de vie, à une relation vivante avec le Seigneur, elle est juste simplement synonyme de croyance, et puis elle est incohérente. On peut croire en Dieu, on rencontre des gens dans la rue qui croient en Dieu, oui, il existe quelque chose, quelqu'un, mais cette personne ne vit pas en conformité avec ce qu'elle croit. Elle est incohérente, elle a juste une croyance, elle n'a pas la foi biblique. Et c'est Jacques qui nous dit avec ces termes, vous savez, Jacques, il rentre dedans. Hein. Jacques, il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, tu as un bon enseignement. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu as un bon enseignement. Les démons le croient aussi. Ils ont aussi un bon enseignement, mais ils tremblent. Voilà. Il y a là donc cette foi en laquelle je crois, c'est la foi qui est un fondement. Et dans une maison, vous le savez bien, les fondations, ce n'est pas destiné à être vu. Les fondations sont là et elles rendent solide la maison. Mais ce n'est pas cela que l'on montre en premier abord dans une maison. Et donc, il y a aussi la foi par laquelle je crois, qui est une foi démonstration, une foi qui se vit au quotidien, qui se pratique, une foi qui est confiance en Dieu, une foi qui se voit véritablement, même parfois une foi qui se défie de la raison. Les actes de foi. Dieu nous appelle à marcher par la foi. Dieu, parfois, nous appelle à nous défier de notre raison, à lui faire confiance malgré toutes les circonstances qui nous pousseraient à ne pas faire confiance. Matthieu, chapitre 9, verset 2. On amène à Jésus, quatre hommes amènent à Jésus un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi se voit, hein, dit au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés. Prends courage, mon enfant. » Lorsque le centurion romain appelle Jésus à venir guérir son serviteur, le centurion lui dit, « C'est même pas besoin que tu viennes chez moi, tu dis une parole et mon serviteur sera guéri. » Et Jésus, lorsqu'il entend ces paroles, il admire le centenier, se tourne vers la foule et lui dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi profonde foi, une foi qui se démontre. » Le centurion, le centenier, a montré une foi qui était visible, qui était au-delà de la croyance. Parfois, la foi se mêle d'incrédulité et le Seigneur le sait, parce que des fois nous sommes dans des circonstances, et c'est vous êtes arrivé, c'est m'est arrivé, où il y a comme une lutte, un combat entre nous, à l'intérieur de nous, entre mettre sa confiance en Dieu et ne pas la mettre. On est parce qu'on est des hommes encore et que nous ne nous voyons pas comme nous verrons plus tard. Cet homme qui vient vers Jésus, qui était chef de synagogue, et qui demande à Jésus de venir guérir son enfant. Hein? Et Jésus lui dit, crois-tu? Crois-tu? Et le père de l'enfant s'écrie, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Et il y a cette espèce de combat dans cet homme-là. Mais il croit parce qu'il est venu vers Jésus. Il a montré sa foi. Il y a aussi l'exemple de Barnabas, donc celui qui a permis à l'apôtre Paul de devenir l'apôtre Paul. On parle beaucoup de l'apôtre Paul, il faudrait parler de Barnabas parce que c'est Barnabas qui a mis le pied à l'étrier, je dirais, de l'apôtre Paul. Et il est dit de lui que c'était un homme rempli d'Esprit Saint et de foi. et de foi. Sa foi, lorsqu'il a vu l'apôtre Paul, alors que tout le monde avait peur de l'apôtre Paul, lui, Barnabas, s'approche de lui parce qu'il avait la foi et qu'il a vu en l'apôtre Paul, qui n'était pas l'apôtre Paul à ce moment-là, qui était simplement Saul, le meurtrier, le persécuteur. Il a vu en lui quelqu'un que le Seigneur voulait utiliser comme instrument pour sa gloire. Barnabas était un homme rempli de foi et ça se voyait dans sa vie. Pas simplement une croyance. Alors nous n'avons pas à séparer les deux facettes de la foi. Chacun a son importance et son rôle particulier. La foi contenue, la foi enseignement, la foi doctrine, c'est la foi qui est le fondement de l'autorité. Hein ? La foi confiance, elle est relative à la pratique et à la marche quotidienne. Alors, est-ce que vous connaissez le credo ? Ouais, le credo, tout le monde sait ce que c'est. Credo, ça veut dire « je crois » en latin. Voilà. C'est le résumé, le condensé de la foi chrétienne, le plus ancien que nous avons de la foi de l'Église primitive. Et ce credo est à la fois accepté par les catholiques et pour les protestants. D'accord ? Dans le monde occidental. On l'appelle aussi le symbole des apôtres. Alors, le mot symbole, c'est simplement, comment vous l'expliquer ? C'était une pièce, un objet qu'on coupait en deux, qu'on donnait à deux personnes, qui les transmettaient, par exemple, à leurs enfants. Et lorsqu'on voulait avoir un signe de reconnaissance des enfants, on mettait les deux pièces ensemble qui se jointé. Voyez, ça vous rappelle des films, hein, le gangster là, qui coupe le billet en deux. Qui... Bon, alors, ça permettait en fait à reconnaître, le symbole des apôtres, à reconnaître qui était dans la foi, le condensé, le résumé de l'enseignement biblique. Alors, on va le lire. Quand vous allez voir catholique, ne hurlez pas, ça voulait simplement dire universel. D'accord ? Catholique universel. Donc, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté aux cieux, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ça, c'est, je dirais, c'est le condensé, le résumé de la foi du christianisme. Le plus ancien. Le plus ancien. Alors, vous voyez ici comment les deux facettes de la foi sont réunies. C'est un enseignement biblique. Et puis en même temps, c'est « je crois ». Ce n'est pas simplement « nous croyons ». Ce n'est pas simplement « nous qui disons ». C'est « je crois ». Je m'approprie. Je fais confiance. Alors ce matin, je voudrais m'en tenir simplement au premier article. « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. » Alors je voudrais vous laisser un petit instant. Un bref instant pour que vous puissiez le dire à vous-même, vous en imprégner, le confesser et le savourer. Alors je vous propose simplement de prendre simplement 30 secondes, de fermer vos yeux et d'interroger votre foi. Est-ce que vous pouvez dire « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ?» Alors je vous propose simplement de fermer les yeux et de simplement savourer cela, de voir toutes les implications pratiques de ce que amène votre foi enseignement dans la vie de votre quotidien. 30 secondes. Amen. Je vais juste... juste boire un petit coup, parce que ma gorge se déchaisse. J'ai le privilège d'avoir ma petite bouteille. Si vous en avez une, vous pouvez aussi. Qu'avez-vous ressenti? Qu'est-ce que vous avez pensé lorsque vous faisiez cette confession? Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Est-ce que ça vous a laissé froid? Ou est-ce que vous avez perçu les perspectives de ce que cela ouvre? Ou est-ce que cela a encore impacté votre vie? Est-ce que cela vous a réjoui? Alors, personnellement, lorsque je me suis interrogé sur cette partie de ma foi, je dirais que j'ai été saisi de joie, de confiance et d'espérance. Et je vais expliquer cela. Joie, confiance, espérance. Et c'est que le premier article. Lorsque j'étais lycéen à Nîmes, j'étais au lycée Daudet, c'était dans les années 77, il me semble. Parce que vous étiez au lycée Daudet, peut-être dans les années, enfin vous les plus jeunes, vous n'étiez pas nés encore. Et toi non plus. Alors, il y avait un tag. Ça s'appelle un tag maintenant. À l'époque, ça s'appelait des graffitis. Et alors, il y avait marqué « Dieu est mort », signé Nietzsche. Et puis, il y avait quelqu'un, un malin, qui avait barré le graffiti et avait marqué « Nietzsche est mort », signé Dieu. Et j'ai trouvé que c'était très, très malin. Alors, mais ça, de tout temps, l'homme a voulu se passer de Dieu. De tout temps, l'homme a voulu se passer de Dieu. Ce n'est pas un fait contemporain. Ce n'est pas un fait nouveau. Et déjà dans le psaume 14, au verset 1, il est dit « L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. » L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Quelqu'un qui voudrait se passer de Dieu pour comprendre la réalité qui nous entoure sera vite confronté à des incohérences et un véritable manque de sens de sa propre vie. Un exemple. Certains ont pensé que l'univers était de tout temps, qu'il n'a pas été créé, qu'il n'a pas eu de commencement. S'il n'avait pas eu de commencement cet univers que nous connaissons, quel serait le sens de ma vie? Quel serait le sens de l'histoire? Le hasard aurait fait surgir l'humain, mais l'humain, c'est rien dans cette perspective de l'infini de l'univers. Il n'y aurait aucun sens. Je serais simplement guère plus qu'un accident. L'humanité elle-même ne serait qu'un accident dans cette ligne de temps infini. Et quand l'humanité aura disparu, ce qu'elle ne manquerait pas de faire, hein, vu les circonstances actuelles, l'univers continuerait d'exister, mais sans nous. Cette ligne de temps continuerait sans cesse, mais vide de sens. Ça nous donne un peu la nausée, n'est-ce pas? Un univers immense, silencieux, infini. C'est Pascal qui disait « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. » Bref, si l'univers n'a pas été créé, s'il n'avait pas eu de commencement, s'il avait été là de toute éternité, l'univers se ficherait bien de nous. Autre exemple d'incohérence. Si notre présence n'est due qu'au hasard, sans l'action d'un Dieu créateur, d'où viendrait notre sens moral? Pourquoi s'enquiquiner d'ailleurs d'en avoir un? Peut-être pour mieux vivre ensemble. Et encore. Pourquoi celui qui ne vole pas, qui ne tue pas, serait jugé plus vertueux que celui qui vole et qui tue? Pourquoi l'injustice serait inférieure à la justice? Pourquoi l'amour serait supérieur à la haine? en regard de la loi de l'évolution, qui est, je vous rappelle, une espèce de loi de la jungle, c'est le plus adapté et le plus fort, le plus violent qui subsiste. Et le plus adapté, c'est celui qui domine sur les autres. Les dictateurs ont plus de légitimité que les faibles sur lesquels ils maintiennent leur emprise. Incohérence du matérialisme athée. Et je ne veux pas développer là-dessus encore. Alors oui, croire au Dieu créateur de la terre et du ciel, le Père Tout-Puissant me donne de la joie, de la confiance et de l'espérance. Et voilà pourquoi. De la joie parce que ma vie a un sens, vos vies ont un sens. Si j'expire, si j'existe, pardon, j'expirerai plus tard. Si j'existe, si je respire, c'est parce qu'il a voulu, qu'il a désiré. Tout à l'heure, nous avons entendu l'espèce de hasard miraculeux de Jean-Marie au fin fond de la Bretagne avec une femme qui avait une coiffe, là, à la bretonne, là. Et le Seigneur permet qu'il rencontre spécialement Jean-Marie qui s'occupe spécialement de cet homme en prison, comme quoi le Seigneur s'occupe autant des pécheurs que des saints, hein, vous voyez. Les gens, Seigneur, le Seigneur est tellement bon qu'il s'occupe du prisonnier. S'il est en prison, c'est bien parce qu'il a fait quelque chose de mal, mais Dieu a quand même son regard sur cet homme-là, c'est extraordinaire. Il n'y a pas de hasard, comme l'a dit aussi notre sœur Elisabeth. Je reconnais que Dieu dirige ma vie. Je reconnais que Dieu dirige ma vie. Je le reconnais dans toutes mes voies, comme dit David. Parfois, je ne l'entends pas clairement. Hein. Des fois, je serai tendance, comme Elisabeth, à râler, hein, si on a un retard de train, hein, comme tous les Français là, à Montparnasse. Parfois, je ne l'entends même pas. Et pourtant, je sais que Dieu dirige ma vie. Je sais que Dieu dirige ma vie. Quand je ne l'entends pas et que j'essaye de faire des choix dans ma vie et que ces choix ne sont pas aussi précis, aussi directifs que je le voudrais, j'essaie de faire mes choix en fonction de ce que je sais de lui, en fonction de sa sainteté, en fonction de sa bonté, en fonction de son amour. Je fais ces choix-là. Et si je me trompe de chemin, il m'arrive parfois de me tromper de chemin, qu'est-ce qui se passe ? Mais simplement, je demande pardon à Dieu et je lui dis, Seigneur, conduis-moi sur le chemin de la vie. J'ai la joie aussi parce que Dieu travaille avec qui je suis. Il est le Créateur, celui qui m'a voulu. Il a créé le ciel et la terre, et plus précisément, il a voulu un petit homme qui s'appelle Norbert, qui est né en 1959. Là, à Sidi Bel Abbès, vous saurez tout de moi. Il a voulu. Et alors j'ai de la joie. Parce que Dieu fait de moi, et vous pouvez le dire pour chacun d'entre vous, il fait de moi son collaborateur. L'apôtre Paul, il a choisi aussi pour être son collaborateur, et il a choisi Norbert pour être son collaborateur, et il a choisi chacun d'entre vous pour que vous soyez ses collaborateurs. C'est énorme, n'est-ce pas, être collaborateur de Dieu. Je laisserai quelque chose de moi dans ce monde parce que ma vie a un sens. Ce ne sera peut-être pas grand-chose. Ce ne sera sûrement d'ailleurs même pas une trace énorme, mais une trace quand même avec son aide. Je me considère comme le petit enfant à qui son père demande de faire un dessin et je ne sais pas comment faire. Alors le père, il prend ma main, il dessine avec moi, sa main conduisant ma main. Le dessin, il est de moi et il est en même temps du père. C'est comme ça que Dieu fait avec nous. Nous sommes des petits enfants entre ses mains. Alors connaissez-vous cette petite histoire? Et je suis sûr que vous l'avez déjà entendue. Au Moyen Âge, un homme s'approche d'un chantier, interroge quelques ouvriers. Il demande à quelqu'un qui tapait sur un caillou, « Qu'est-ce que tu fais ?»« Eh bien, je tape sur un caillou. » Il s'approche d'un autre, lui pose la même question, l'autre répond de la même manière. Il s'approche d'un troisième, il lui dit « Toi, qu'est-ce que tu fais ?» Le gars, il était tard, toujours en train de taper sur son caillou. L'ouvrier se lève vers celui qui lui pose la question, fait un grand sourire et dit « Je construis une cathédrale. Hein ? Je construis une cathédrale. » Voilà. Alors, peut-être il ne verra pas la fin de la cathédrale. Peut-être son petit caillou, il continuera à taper pendant des années et des années. Et voilà, c'est ma vie, c'est notre vie. Elle a un sens. Nous sommes en train de construire quelque chose. Dieu se sert de nous. Amen. En ce qui concerne la confiance, non seulement il est le créateur du ciel et de la terre, il est, comme dit le credo, le Père Tout-Puissant. Hein ? Il n'est pas simplement un Dieu, une force, il a un nom, il a une personnalité, il a une volonté. Il se définit, il se révèle à nous comme le Père, n'est-ce pas ? Alors je voudrais simplement vous dire pourquoi est-ce que je peux développer ma confiance par rapport à ma foi enseignement. C'est Jésus qui le dit, qui enseigne à ses disciples, et j'aimerais qu'on les réécoute encore pour nous. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes en ce moment. Et j'aimerais vous le dire au nom de la part du Seigneur, au nom du Seigneur. On va lire chapitre 6 de Matthieu, verset 25. C'est ma foi pratique, ma foi de tous les jours, et c'est sûrement la vôtre. Et parfois, c'est bon de nous rappeler ce en quoi nous croyons. Et Jésus le dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ?» Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Jésus qui nous le dit. Il va s'occuper de ton épouse pendant que tu ne seras pas là. La foi, c'est plus qu'une croyance. Croire en Dieu, le Père Tout-Puissant, me rassure, me procure une énorme confiance. Il sait tout de moi, de mes besoins, de mes aspirations. Il tient ma vie et le jour de ma mort est dans ses mains. Il connaît mes combats et mes souffrances parce qu'il les a connus lui aussi. Pas seulement en théorie. Il connaît ce que nous passons. Parfois je râle, je trépigne en face de la souffrance de mes proches, de mes amis et de mes frères en assemblée. Et je demande le soulagement et je demande la guérison. Parfois, il me montre sa paternité toute puissante. Et parfois, malgré mes prières, je n'ai pas de réponse. Du moins comme je l'entends. Et je côtoie comme vous ses amis en souffrance et j'apprends d'eux principalement cette présence qui les maintient dans la foi, une foi éprouvée, une foi qui est bien plus précieuse que l'or. C'est un mystère, et pourtant cela me rassure. Parce que si je ne vois pas la toute-puissance de Dieu se déployer de la manière que j'aimerais qu'elle se déploie, à chaque fois que je prie pour un de mes frères et sœurs, je vois la paternité de Dieu, sa bonté, et celle-ci se manifeste toujours. J'apprends davantage en côtoyant les gens qui souffrent dans la foi que ceux qui sont en bonne santé. Alors, je vous ai parlé de joie, je vous ai parlé de confiance, qui sont les fruits de ma foi au Dieu créateur, et j'espère qu'ils sont les vôtres aussi. Laissez-moi encore 5 minutes pour vous parler de l'espérance, qui est un autre fruit dans nos vies de la foi au Dieu créateur du ciel et de la terre. Alors, non seulement Dieu a créé le ciel et la terre, mais il maintient le ciel et la terre par sa parole, c'est la Bible qui nous le dit. Il maintient. Dieu enlèverait sa main, tout s'écroulerait, mais il maintient. Non seulement l'univers a un commencement, mais il a aussi un but. Et Dieu, lorsque nous lisons dans la Bible, intervient dans l'histoire des hommes. Je ne sais pas si... Je suis sûr, combien d'entre vous regardent les réseaux sociaux ? Il y a 15 jours, on disait, voilà, nous avons dépensé tout ce que la Terre... voilà, vous connaissez la suite. Hein ? C'est-à-dire, on vit à crédit. On vit à crédit. L'humanité a bouffé toutes les ressources de la Terre. Qu'est-ce qu'elle pouvait donner ? On entend encore parler, là, ça c'était il y a un mois, l'extinction des espèces animales s'accélère. Hier et avant-hier, nous avons subi de plein fouet la chaleur qui n'est pas normale. Dieu est un Dieu qui intervient dans l'histoire des hommes, frères et sœurs. C'est lui qui suscite Noé, c'est lui qui suscite Abraham, c'est lui qui suscite Moïse. C'est lui qui suscite tous les prophètes que nous avons dans l'Ancien Testament. Et la plus grande intervention de Dieu dans l'histoire des hommes, ça c'est André qui nous l'a rappelé ce matin, c'est le Seigneur Jésus qui vient marcher, qui vient s'incarner dans la vie des hommes, dans l'histoire des hommes, dans l'histoire des hommes. C'est la plus grande intervention de Dieu dans l'histoire du monde. Dieu est intervenu et il interviendra encore pour accomplir ce qui a été inauguré. L'espérance chrétienne n'est pas simplement un vague espoir, ni une fuite en avant. Demain, ça ira mieux. Les chrétiens ne se bouchent pas les yeux et les oreilles face au désarroi du monde. L'espérance dicte notre présence au monde. L'espérance dicte l'action que j'entreprends aujourd'hui. L'espérance regarde le ciel et regarde nos prochains qui sont sans espérance. Imaginons les gens qui regardent les réseaux sociaux comme avec les nouvelles que je vous ai parlé tout à l'heure. Quelle espérance ? Quel avenir ? C'est pour cela que le monde aujourd'hui se plonge dans le présent, n'a même plus de regard vers l'avenir. Ce qui compte pour le monde, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain, on ne sait pas de quoi il sera fait. Ça sera sûrement la catastrophe. Imaginez, pour essayer de réduire l'effet de serre. Qu'est-ce qu'on fait ? On augmente on demande des sous aux gens, on demande des sous aux États pour essayer de réduire cet effet de serre. Est-ce que c'est la bonne solution ? Je sais, et c'est mon espérance au Dieu créateur, que lui va intervenir. Que lui va intervenir. Et comme il est venu une fois, il reviendra une autre fois. Parce que je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, la terre et les cieux lui appartiennent. Je crois aussi que Dieu l'a sauvé et qu'il sauvera ce monde dans lequel j'habite. Romains 8, verset 22. Et c'est avec ce verset que je voudrais terminer ce partage. Le verset 20, même le 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. La création tout entière soupire auprès et souffre les douleurs de l'enfantement. Elle attend la révélation des fils de Dieu. Ça, c'est mon espérance. Alors, lorsque je dis, lorsque je confesse, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Voilà ce que ça me fait remonter en moi. Je ne sais pas ce que cela vous a fait remonter en vous tout à l'heure, lorsque vous étiez les yeux fermés. Mais que votre foi, ça n'est pas simplement un contenu, un enseignement. C'est important, le contenu, l'enseignement. Mais il faut que ce contenu, cet enseignement, porte du fruit dans votre marche quotidienne. Si vous n'avez pas la joie, si vous avez perdu le sens de votre vie, si vous avez perdu la confiance dans tous les jours, si l'espérance ne vous habite plus, peut-être il faut revenir à votre foi, à vous interroger sur votre foi et bien la baser, bien la construire. Amen. Merci.